Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Merci, les joueurs sont prêts.
Est-ce que les joueuses sont prêtes d'ailleurs? Mario Bartoli est là, prête?
Toujours.
Alizé Cornet?
Ouais.
Ça va pas fort.
Je vous fais le bail. Mais je suis prête, attention.
T'es prête, ouais, bien sûr. Ouais, mais ça, c'est, ça, de toute façon, c'est un mental game, là. Tu nous fais croire que t'es pas prête, alors qu'en fait, tu vas arriver,
ça,
bam!
C'est ça.
Elle va sortir son meilleur argument. Simon Dutin, Jérôme Pinot est là. Tiens, vous pouvez écouter, je vous rappelle, la première heure des Grandes Gueules du Sport en podcast. Évidemment, on a rendu hommage aux Lensois qui se sont imposés hier. Tiens, j'en profite aussi pour relancer un appel à la libération de Christophe Glaise, notre collègue journaliste sportif français condamné à 7 ans de prison et détenu depuis 11 mois en Algérie, simplement pour avoir exercé son travail de journaliste pour le magazine SoFoot. On pense fort à lui ce matin et on a vu sa famille qui a donné le coup d'envoi hier de la rencontre. Il nous écoute peut-être et on pense beaucoup à Christophe. Dans un instant, du rugby avec la finale de la Champions Cup entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Leinster à 15h45. C'est à suivre sur RMC sur place à Bilbao. On a envoyé Christophe Cessieux sur place. Hein. Vous l'imaginez là au Pays Basque, Christophe et tout. Il s'énerve. Los Ruegos, Ruegos du sport, ça marche pas. Et Denis Charvet, c'est vrai que Christophe Cessieux et Denis Charvet en bas de rue, c'est quand même.
Il reste là-bas jusqu'au
doucement dans les Benta, les gars.
Ouais, il y a quelque chose d'effrayant dans ce déplacement. Est-ce que l'UBB est déjà en grand club? On va en parler ensemble dans un instant. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Ce week-end, a gagné un séjour dans un des 400 campings Homer avec des campings 4 et 5 étoiles partout en France et en Europe. Voyagez selon vos envies pour remporter votre séjour Homer. Appelez le 3216, touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16, sport au 7-32-16. Mais d'abord sur le ring, odeur de soufre sur Roland-Garros qui débute demain. Avant les premières balles, certaines stars du tennis sont en rogne contre l'organisation. Pas content.
RMC, le ring des GG.
S'il vous plaît.
Les prises de position lors du tour de Rome, avec notamment une menace de boycott, vont avoir une suite à Roland-Garros à l'occasion du Media Day.
Nous refusons de reprendre le travail. L'heure de question de continuer dans ces conditions, c'est intolérable.
Quand je vois les chiffres et les montants que les joueurs reçoivent, il me semble que c'est nous qui faisons le spectacle, que sans nous, il n'y aurait pas de tournoi et que ce ne serait pas le même divertissement. Je pense vraiment que nous méritons de toucher un pourcentage plus élevé.
Ouais, messieurs, dames,
le spectacle n'aura pas lieu.
Tu peux fermer le rideau, s'il te plaît. Le spectacle n'aura pas
lieu. Tout est pris au sérieux. Je crois que globalement, on n'a pas l'habitude de prendre les choses et ce qui vient des joueurs et des joueuses par-dessus la jambe. Donc, je pense qu'on ouvre la discussion.
Solidarité avec la CGT.
It's more about respect, you know.
Il s'agit là de respect parce que nous donnons beaucoup plus que nous recevons. Il ne s'agit pas seulement des meilleurs joueurs, mais bien pour tous les joueurs. Et ce n'est pas normal qu'après un an, nous n'ayons pas trouvé de solution.
De révolte, je sais pas si sur cette aire de musique Roland Garros. Et oui, bah c'est comme ça. J'aime bien parce que je remarque à chaque fois que Marion a toutes les rêves sur les inconnus. Dès qu'on met les inconnus.
Ah, mais les inconnus, ça me redonne le sourire direct. Alors, je ne vais pas passer à télé magouille d'ici la fin de l'émission. Je vais passer un bon Roland, c'est certain.
On va voir ce qu'on peut faire. Alors, que se passe-t-il à Roland? Des stars du circuit réclament une plus grande part des revenus générés par les tournois du Grand Chelem. Ils l'ont fait savoir hier en écourtant pour certains leurs interviews aux médias. Les joueurs veulent augmenter leur dotation aujourd'hui fixée à 61,7 millions d'euros, soit environ 15% du total que rapporte Roland Garros à la Fédé. Les GG, je vous pose la question ce matin. Est-ce que vous soutenez la révolte des joueurs à Roland-Garros? Tiens, oui ou non, rapidement, dites-moi oui ou non, Alizé.
Oui et non.
Oui et non, Mario Bartoli.
Pareil.
Simon Dutin.
Non.
Jérôme Pinot.
Oui.
Et sur le compte XDGG, vous dites oui à 25%. Ouh, seulement.
Et le oui et non, il y a combien de
32-16.
Vous savez quoi, ça ne m'étonne pas.
Ouais, ça ne m'étonne pas, effectivement. Anthony Reich est à Roland-Garros avec les joueurs et joueuses pas contents pour RMC. Salut Anto.
Salut
Georges.
Salut,
salut Georges.
Bon, il y a eu des discussions jusqu'à hier avec l'organisation, je crois. Qu'est-ce qu'on peut dire ce matin, les dernières infos sur le mouvement de protestation des joueurs du circuit?
Ben écoute, que cette fronde annoncée lors de ce début de tournoi et de ce fameux Media Day, le traditionnel moment avec les médias avant le début de tournoi, ça a été très calme hier. Pas de chaos, pas de boycott des conférences de presse, juste un temps réduit à 15 minutes accordé par les stars du circuit notamment. Une journée en somme classique. La presse internationale attendait beaucoup Arina Sabalenka, la numéro 1 mondiale, qui a été la première à brandir la menace d'un boycott. Eh bien, elle s'est présentée devant les micros quand même avec un sourire plutôt gêné, elle a même effectué un petit rétro-pédalage.
The world, number one of...
En tant que numéro 1 mondial, je me devais de monter au créneau pour me battre pour les joueurs et joueuses mal classés ou les joueurs qui reviennent après des blessures ou la génération montante. Notre cause me semble assez claire et assez juste. Voilà de quoi il s'agit.
We all about...
Au fur et à mesure de la journée d'hier, on a entendu les mêmes éléments de langage, de soutien, mais sur les actions à mener, c'était plutôt en ordre dispersé. De nombreux joueurs et joueuses français ne prenant pas part au mouvement de contestation. Corentin Moutet, par exemple, rappelant que c'est un sport individuel. Et puis, un autre passage très attendu, c'était celui de Novak Djokovic, hier en conférence de presse, qui a beaucoup agi pour le statut des joueurs au cours de sa carrière. Il a bien expliqué qu'il ne prenait pas part non plus à ce mouvement, qu'il n'était pas consulté. Le Serbe regrettait une nouvelle fois la division de son sport et le fait qu'on oublie ceux qui peinent à vivre de leur discipline, tout en prenant exemple sur un autre sport, le golf.
C'est un sport professionnel individuel qui est passé par des temps difficiles en termes de gouvernance et parfois les joueurs ne peuvent faire qu'un circuit puis s'ils vont à l'autre, ils ont du mal. Voyons ce qu'il se passe. L'idée, c'est d'espérer parler d'une même voix et que notre sport ait un meilleur avenir.
Alors tu le disais Georges, une réunion était prévue en fin de journée hier à Roland-Garros, à huis clos entre les membres du top 10, leurs agents et les représentants de Grand Chelem. Pour l'instant rien n'a filtré, on en saura certainement plus aujourd'hui avec les dernières conférences de presse. Ce qui est sûr, c'est que la direction du tournoi, Amélie Mauresmo en tête, peut aborder ce Roland-Garros 2026 plutôt tranquillement.
Merci Anto, tu restes avec nous. Oui et non Alizé, tu as dit soutenir la révolte des joueurs.
Oui.
Pourquoi un avis partagé?
C'est un sujet assez touchy quand même, mais je pense qu'on a, tous autour de cette table, pas tous les tenants et les aboutissants, mais en tout cas des informations que moi j'ai un petit peu et de ma vision des choses, la cause est plutôt noble. Des joueurs, ils se battent pour leur organisation, ils se battent pour mieux vivre de leur sport. Le fond du problème, il est entendable. En revanche, la forme qui a été utilisée, moi, c'est un peu ça que je condamne. Ça a été fait avec pas mal d'agressivité, notamment lors du tournoi de Rome, avec une Arina Sabalenka, un Yannick Sinner qui a...
Offensif, quoi.
Qui ont parlé de manque de respect. Je pense que la communication doit être mieux établie entre les joueurs et les grands chelems, entre les joueurs et Roland-Garros, et il y a des choses qui peuvent rester en interne. Et là, c'est vrai que ça fait... Alors, ça donne, attention, ça ne l'est pas, je mets les guillemets, mais ça donne un peu l'impression d'enfants gâtés qui font leurs caprices sans vraiment parler, en fait, à l'organisation.
Ah, bah, c'est un peu ce qu'on a sur les messages des auditeurs, hein, je te le dis, Alizé.
Oui, mais en fait, je veux aussi me mettre du côté, en fait, j'essaie de me mettre du côté des joueurs et du côté de Roland Garros. Roland Garros a quand même fait énormément d'efforts pour les joueurs. Il y a une augmentation pour le vainqueur du tournoi de 300 000 euros. Le premier tour du tournoi pour les joueurs c'est 84 000 euros, seul l'US Open fait mieux. Ça veut dire qu'on est quand même très en haut de la tranche de prize money et que les efforts sont mis en place pour les joueurs un petit peu moins bien classés. Dans les qualifications, il y a aussi une augmentation du prize money. Donc il y a des efforts constants qui sont mis en place, le prize money il augmente d'année en année.
Tu veux dire que ça donne le sentiment que rien n'est fait alors que c'est pas le cas en fait.
En fait, je trouve que les joueurs se basent beaucoup sur ce qui est de moins satisfaisant, sans mettre en lumière tout ce qui a été fait de bien depuis beaucoup d'années. Et en fait, ça fait un petit peu le manque de reconnaissance. Il est un peu dur à entendre, je pense, pour Roland Garros, parce qu'au final, ils mettent tout en œuvre pour faire en sorte que les joueurs se sentent bien. Les structures ont été améliorées, les prize money ont été augmentées. Et c'est vrai qu'en fait, les joueurs, ils comparent des choses un peu incomparables. Ils comparent leur sport, donc Roland Garros, qui est quand même financé par une fédération à but non lucratif, avec des sociétés comme la NFL, la NBA, qui sont des sociétés privées. Et en fait, la redistribution du prize money, elle peut pas être la même. Évidemment, c'est 15% dans le tennis et ça pourrait monter jusqu'à 20%, mais on peut pas comparer avec des 40-50% sur des sports co aux États-Unis.
C'est trop, en fait. Ce qui est demandé, le niveau de comparaison est pas le bon, en fait.
Mais c'est pas 50% qui est demandé, c'est 25%
à long terme.
Mais attends, je finis juste un truc. je trouve que les meilleurs joueurs auraient pu se positionner à l'image d'une Coco Gauff, et on en parlait hier avec Marion, auraient pu se positionner pour défendre un peu plus les joueurs moins bien classés. C'est-à-dire pour vraiment rediriger le débat sur on a besoin de plus d'argent pour ces joueurs entre 100 et 300
qui ne plus peuvent audible.
Pas, voilà, qui ne peuvent pas financer leur saison, qui ont besoin de plus d'argent. On fait partie des 300 meilleurs joueurs du monde dans notre sport. Et en fait, le débat, il a été redirigé vers quelque chose d'un petit peu égocentré vers le top 10, alors que c'est pas eux qui ont besoin.
Et qui est dur à entendre pour le public.
Et
c'est
ça
pour
comprend,
ça qu'on a que 25% de nos éditeurs qui soutiennent pour l'instant cette révolte des joueurs. Marion, t'es un peu sur la même thématique?
Oui, totalement, mais il y a plusieurs éléments. Pour moi, effectivement, quand on regarde l'historique de la WTA, par exemple, parce que là, on prend Aryna Sabalenka.
Le circuit féminin.
C'est parce que Billie Jean King s'est battue pendant des années que même le sport et le tennis féminin existent et qu'on peut vivre aujourd'hui et que ces joueuses-là vivent de leur sport parce qu'il y a eu effectivement, à un moment donné, des pionnières qui n'ont pas hésité à faire beaucoup de bruit et qui n'ont pas hésité à revendiquer certains droits. Alors, de là à dire que Aryna a raison ou pas, je vais pas rentrer dans ce débat-là parce que comme l'a dit Alizé, effectivement, c'est pour moi le timing était un petit peu difficile à comprendre, même si d'un certain côté je les comprends, mais c'était
parce
vraiment
que c'était juste avant un grand chelem.
Exactement.
En fait,
c'est ça. À la limite, en fin d'année, quand toute la saison est finie,
quand
on fait un bilan avant que les quatre grands chelems commencent, où on sait très bien que les quatre grands chelems généralement s'alignent sur à peu près les mêmes choses, avant que l'Open d'Australie commence, qu'il y ait effectivement des réunions en interne entre les joueurs, les joueuses, les tournois du grand chelem qui sont des organisations différentes. Oui, là avant Roland-Garros, ça m'a un petit peu surprise. Néanmoins, et j'aimerais revenir là-dessus parce que c'était mon axe hier dans Super Moscato Show et je reste là-dessus. Ce qu'a évoqué pour moi Coco Gauff, c'est ça le fond du problème. Et je le sais parce qu'aujourd'hui, j'entraîne deux joueuses qui sont sont quasiment au même classement. Elles sont 170e mondial, 175e mondial. Et aujourd'hui, il y a des semaines où elles doivent choisir entre prendre un entraîneur physique ou prendre un entraîneur tennis. Parce qu'elles ne peuvent pas se permettre, sur toutes les semaines de l'année, de payer un entraîneur physique et un entraîneur tennis, et encore moins un kiné en plus, parce que c'est beaucoup trop d'argent pour elles, et qu'à la fin de l'année, en fait, elles ne boucleraient pas leur budget. Et ça, moi, effectivement, dans un sport qui génère beaucoup d'argent, je me dis que quand même, on peut peut-être réfléchir à une évolution dans la manière dont l'argent est réparti pour que ces joueuses-là, bah, finalement, aient la même chance au final que des joueuses qui ont une capacité de payer un staff bien plus élargi et qui donc ont un entraînement au quotidien qui forcément va être meilleur parce qu'elles ont la possibilité de se le payer. Et moi, ça ne me dérange en aucun cas qu'elles aient la possibilité de se le payer. Et au contraire, tant mieux qu'elles aient la possibilité d'avoir 5, 6, 7 personnes pour les aider à être encore meilleures et plus performantes sur le terrain. Et je le mets au masculin comme au féminin. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est aujourd'hui 170e meilleur de sa discipline dans le monde entier, qu'elle soit obligée de se dire bah là, je suis désolée, mais je ne peux pas prendre deux personnes, ce n'est pas possible. C'est compliqué.
Et c'est vrai que ça, on l'a pas entendu. Pas comme ça, en tout cas.
C'est vraiment ça que j'aimerais développer. Parce que pour moi, là, il y a un réel sujet. Alors, je sais que Roland Garros fait énormément. Je pense qu'elle disait, alors, on a quelques années d'écart, mais on n'était pas dans les mêmes price money du tout quand on a commencé à Roland Garros. Pour vous donner un contexte.
Attends, vous êtes venu en Lamborghini. Hein,
non, mais.
Ça, c'est oui, 15 000 euros à mon premier Roland.
Tu vois, t'as eu le double moi. J'avais 7 000 euros.
Allez.
7 000 euros. Faut quand même se rendre compte que le.
Roland, toi.
Si j'avais 16 ans, donc c'était en 2000.
Ah ouais, moi 2005, non, déjà 2001, ça va augmenter du double, du simple double.
Tu vois, donc en fait, on voit la progression. Donc en 2001, on était à 7 000 euros, aujourd'hui on a 84 000. Donc il y a quand même une énorme progression, mais c'est vrai qu'on aimerait que cette répartition descende vers les joueurs des qualifications et descende éventuellement même au premier tour du tableau final.
Ça n'a pas été assez mis en lumière, moi je trouve, de la part des joueurs. Et c'est ça le problème de forme dont je parle.
On n'a pas eu la punchline forte, effectivement. Le petit tennisman se meurt et a besoin des grands chelems pour survivre. Ouais. Ça aurait été.
On a parlé. Hein.
Mais ça a manqué dans le discours global, Simon.
Bah, je crois que même Sabalenka y est allé de son petit oui, mais moi je me bats aussi pour le tennis d'en bas et on a un petit peu de mal à y croire. Je vous prie de m'excuser, mais c'est pas voir le mal partout. Tu as rappelé quand même qu'il y a une croissance exponentielle quand même de ce qui a été distribué. Donc il y a déjà des efforts qui ont été faits par les grands clubs. Donc moi je trouve qu'il y a un petit peu d'hypocrisie. Je trouve que ça manque un petit peu d'unité parce qu'un Djokovic dont on n'a pas à douter de la volonté de.
Il a fait beaucoup pour les petits joueurs. Énormément.
Il y va avec l'extincteur à la main quand même. Il y va mais sans y aller en disant moi je vais continuer à aider le tennis comme je l'ai toujours fait. Mais il n'a pas envie d'être associé quand même à la diffusion de ce message qui, on s'en rend bien compte ce matin, est mal perçu quoi qu'il arrive. Qu'il soit vraiment teinté de sincérité, et il n'est pas interdit de penser que c'est pas la même chose pour tous les joueurs ou toutes les joueuses. L'argument principal, c'est en gros, sans nous, il n'y a pas de spectacle. Mais sans les tournois
parce qu'on entend dans tous les sports quand il y a eu des problématiques. Alors, on parlait de la NBA, de la NFL tout à l'heure.
C'est un vrai argument ça.
Ouais, et quand on entend sur le vélo aussi, on va en parler.
S'il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de spectacle. Mais s'il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de plateforme ou de théâtre ou de scène, appelle ça comme tu veux, pour qu'il y ait un spectacle. Je veux dire, les grands chelems.
Et les grands chelems permettent d'avoir de meilleurs sponsors aussi pour les joueurs, par exemple.
Les grands chelems redistribuent, alors certes, s'enrichissent, mais les grands chelems, ils redistribuent, je parle sous votre contrôle, mesdames. Un peu à la fédération qui elle-même bah, justement donne aux petits clubs pour former les jeunes joueurs qui peuvent améliorer les infrastructures. Donc je suis pas persuadé qu'en plus les gens est-ce qu'il va y avoir moins de monde à Roland-Garros cette année parce que Alcaraz est pas là. Est-ce que les gens ils viennent parce que alors certes t'es attiré par
si tous les membres du top 20 faisaient le boycott, ça mettrait quand même un sacré coup au tournoi. Et à un moment donné, il y a eu des rumeurs assez sérieuses de boycott. Et
mais là, parce que le mot a été balancé à Rome en fait. Donc c'est pour ça que mais il n'a pas été utilisé hier.
En fait, tu viens pour je veux dire demain autour du court numéro 14, ça va être la folie. Alors que il y aura pas de méga star du tennis. Tu viens parce que c'est Roland Garros. Tu viens pas parce que c'est Sabalenka.
Tu viens pour les deux.
Oui, mais parce que tu viens pour Roland-Garros. Voilà, tu vas à Roland, tu vas pas voir Sabalenka, tu vas à Roland.
Moi, j'allais voir Tour de France pour Jérôme Pinot, hein, parce que pour le Tour de France.
C'est gratuit. C'est vrai.
Soutenez-vous la révolte des joueurs. Alors, toi, t'as dit oui à Roland-Garros,
oui,
Jérôme.
Oui, parce que je fais un parallèle avec mon sport, évidemment, et je trouve que c'est un vrai sujet. Le fond est très bon. Je pense que participer et redéployer les moyens qui sont engrangés. L'argent qui est gagné par les organisateurs doit retomber. Tu le dis, Simon, mais la scène sans acteurs, c'est pas bon non plus. Il faut que tout le monde prenne sa part et je trouve que si les revenus vont en augmentant, évidemment qu'il faut indexer l'augmentation sur les acteurs principaux. Que sont les sportifs.
Oh, mais regarde.
Et dans mon sport à moi, et je vous entendais parler des sommes, si on se lance des sommes, moi j'ai fait mon premier Tour de France en 2000, j'avais 1800 balles par mois et le vainqueur d'étape, il gagnait 1000 balles. T'imagines ?
C'est
l'un des plus grands événements au monde. Donc, la hiérarchie des sommes, elle est ce qu'elle est, et on ne va pas comparer les sports, ce n'est pas le moment. En revanche, que les revenus générés par l'organisateur retombent partiellement et soient indexés.
Mais ça, c'est logique.
Aux joueurs.
Bien évidemment.
Je trouve ça complètement
logique. Mais tu sais, regarde, il y a cette semaine supplémentaire qui a été créée par Amélie, puisqu'auparavant, la semaine des qualifications était peut-être un peu plus anonyme.
Voilà, ce qu'on appelle l'opening week, effectivement,
voilà.
La semaine
c'est
écoulée.
C'est vraiment une révolution. Aujourd'hui, il y avait 20 000 personnes tous les jours pour la semaine des qualifications, pour l'opening week de Roland-Garros, avec des matchs sur le cours Suzanne Lenglen, avec des interviews réalisées après les matchs pour les vainqueurs sur le cours Suzanne Lenglen. Il y a d'ailleurs David Goffin, je vous invite si vous voulez vivre un moment d'émotion, qui lorsqu'il a gagné son premier tour était en pleurs sur le cours Suzanne Lenglen en disant j'ai quasiment la sensation d'avoir gagné Roland alors que c'est le premier tour des qualifs. Donc les gens viennent quand même pour le nom, pour l'événement, pour Roland-Garros. Et alors bien sûr qu'on a besoin des acteurs et bien sûr que surtout si un Français ou une Française va loin, il y a encore un engouement supplémentaire et que les gens vont encore plus suivre. Mais la force et la puissance du tournoi, elle est énorme. Et tu pourrais dire pareil pour Wimbledon, tu pourrais dire pareil pour l'US Open, tu pourrais dire pareil pour l'Open d'Australie. Avec des identités de grands chelems qui sont très marquées, bien sûr. Chacune a une identité complètement différente et chacune joue sur un élément fort. Mais la partie de, pour nous, en tout cas, français, Roland Garros, c'est le moment. Voilà, exactement.
Moi,
c'est ancré dans l'histoire du pays.
Et j'ai été beaucoup moqué, et tant mieux. Ça a au moins eu le don d'éveiller certains. Quand j'ai parlé de rémunération, et non pas de faire payer les spectateurs, de rétribuer les équipes quand on fait des gains, quand on fait rentrer de l'oseille. Ce que fait, par exemple, ce que font les grands organisateurs quand ils créent de l'hospitalité, quand ils prennent des chèques incroyables pour faire venir des marques, pour mettre en place des repas autour des stades, des night sessions comme il y a à Roland, des arrivées du tour où tu ne pénètres plus les 5 derniers kilomètres parce qu'il y a des VIP.
Ça existe déjà, oui.
Il faut rétribuer les équipes, les acteurs. Il faut le faire. C'est très important. Alors, c'est déjà le cas dans le tennis, mais si eux augmentent leurs gains, je trouve logique qu'il y ait une indexation, ce qui n'est pas le cas du tout. C'est pour ça que j'ai répondu que oui, ça, je suis avec les joueurs parce que ça devait être le cas dans tous les sports. L'acteur principal, ou si on a deux, parce qu'il peut y avoir plusieurs acteurs principaux,
oui, il faut le valoriser,
ce sont l'organisateur et les acteurs. Et il n'est pas logique d'entendre que l'organisateur s'enrichissent sans indexer les revenus des acteurs.
Et c'est effectivement de toute façon un sujet sur lequel on reviendra, et aussi dans le vélo effectivement, parce que c'est une petite musique qui monte.
Il est grand temps dans le vélo parce que beaucoup d'équipes meurent, il y a des grands organisateurs qui s'enrichissent, mais ça n'aide pas le sport en lui-même.
Soutenez-vous la révolte des joueurs, vous dites oui à 28% sur le compte
Xd. On a gagné 3%. Je crois que c'est la première fois. Dans l'histoire GGG, ça c'est la première fois qu'il y a 3% qui bouge. C'est une immense victoire. Je dirais même c'est un exploit.
Oui, mais comme vous avez dit oui ou non, vous avez gagné. Comme elle s'arrange quand même, c'est incroyable. Tiens, je voulais garder deux minutes pour Anthony Reich à Roland Garros, qu'on donne quand même les dernières nouvelles d'Arthur Fils, qui va faire son entrée en lice normalement dans deux jours. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'état de santé qui pouvait inquiéter ces derniers jours?
Ben, on va en savoir un peu plus dans une demi-heure, parce que Arthur Fils va passer un gros test. Il va s'entraîner à partir de 11h sur le court central avec Yeri Lehechka. Donc ça va être sa première séance avec un autre joueur membre du top 20, top 30. Donc c'est là qu'on va voir, c'est certainement un gros test. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est entraîné hier pendant une heure sur l'annexe de Jean Boin, le magnifique complexe en face de Roland Garros, sur le court le plus caché du complexe. C'était un peu fort à la mot. On avait le droit qu'à 5 journalistes par rotation pour aller le voir. J'ai failli me percher sur une terrasse avec mes jumelles pour essayer de le voir s'entraîner. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'est entraîné normalement hier. Il n'y avait pas énormément d'intensité, mais il tapait la balle normalement. Donc ça, c'est un vrai premier signe rassurant.
Donc Anthony, tu es en capacité de dire si un joueur de tennis professionnel tape la balle normalement.
Bien sûr, on connaît.
J'ai l'impression qu'il y a que Arthur Fils qui participe à Roland Garros. Il n'y a pas d'autres joueurs.
Bon, c'est quand même la tête d'Arthur.
Mais parce qu'on est inquiet,
Et top 5 à l'arrêt, c'est quand même.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Il faut pas être inquiet pour Arthur Fils?
Non, mais bon, là, il fallait jouer des points avec Lehechka. Enfin, à un moment donné, s'il fait des points avec un top 20, ça tient. Et qu'il a fait le job, il a été précautionneux. Entraîné avant, mais on le sait pas. Enfin, à un moment donné, j'ai l'impression qu'on tombe dans des trucs là.
J'ai posé cet argument là cette semaine. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi toutes les deux. Il est allé voir son pote. Si t'es pas bien, t'es limite forfait, tu vas pas t'afficher.
Ah non, mais moi je l'ai croisé plein de fois pendant la semaine des qualifs, il va très très bien. Voilà. Hein. Il a le sourire jusqu'aux oreilles, tout va très bien.
Cette nuit, j'ai bien dormi.
Marion. Faut pas s'inquiéter?
Ah, mais pas du tout. Mais en tout cas, son état physique, après rentrer sur le terrain, avoir la pression, être nerveux, c'est Roland Garros. Tout le monde en tant que Français là.
Marion Marcoli, les yeux dans les yeux.
Mais les yeux, on est archi yeux.
Arthur Fils est à 100% pour les yeux de Roland Garros.
Mais archi. À 100%.
Ça avance, hein.
Les archisieux, les yeux étaient les archisieux.
T'avais pas compris que Marion Bartoli était un X-Men. Ça explique plein de choses, hein.
Explique tout, j'ai envie de te dire.
Bien sûr. Ça explique qu'elle arrive à être à plein d'endroits en même temps.
Ça explique ma potion verte.
Mais ça se transforme un peu en obsession.
Je dois t'en prendre un peu, moi.
L'attitude, là, des médias envers Arthur. Alors, oui, certes, il est top 5 et c'est le grand espoir de Roland Garros.
Mais rappelle-toi de Andy Murray à Wimbledon, chaque année.
Il se fait ça
rappelez-vous d'Andy Murray à Wimbledon, c'est pareil.
Alizé, je crois que t'es pas prête avant le Tour de France. On va vouloir savoir quand dort un peu le Sexas. Qu'est-ce qu'il a fait de sa journée?
Il va bien, il est en Sierra Nevada.
Allez, Roland Garros, je m'étouffe. Débute demain et ce sera à suivre sur RMC, évidemment. On a une radio digitale 100% terre battue que vous pourrez suivre tous les matchs dès les premières balles dès 11h. Vous ne manquerez rien. Et puis abonnez-vous aussi au podcast Tennis Court numéro 1 tous les jours pendant Roland avec Anthony et avec les déambulations mythiques qu'on adore d'Eric Salio en Bermuda. dans les travées de Roland Garros. Allez, on parle de la finale de la Champions Cup en rugby. UBB Leinster tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilino.
Les grandes gueules du sport. Dans un instant, j'y crois pas. On va parler de Roland Garros et de la Coupe du Monde de foot aussi. Mais d'abord, du rugby. C'est la finale de la Champions Cup entre l'UBB et le Leinster à 15h45 à suivre sur RMC. Christophe Cessieux, Éric Templier, Denis Charvet au commentaire à Bilbao. L'UBB veut conserver sa couronne pour ne pas être une étoile filante, comme le répètent les Bordelais depuis le début de la saison. Punchline de Mathieu Jalibert, l'ouvreur Bordelais.
RMC, la punchline GG.
Pour partager encore un peu plus l'histoire, la première Coupe d'Europe, c'était exceptionnel. Faire un deuxième d'affilée, un back-to-back, comme on dit, c'est encore plus fort. Il y a très peu de clubs qui l'ont réussi. Donc voilà, c'est juste aussi l'histoire de ce groupe. On est dans notre évolution. Une finale, c'est 50-50. Donc il y a aussi l'option de perdre et d'avoir une désillusion samedi. Mais on va tout faire pour essayer de marquer l'histoire encore un peu plus.
Laurent Jalibert. Mathieu Jalibert.
Laurent Jalabert.
Ça ferait un beau sportif. Franchement.
Ah oui.
C'était bien Mathieu Jalibert, donc qui a parlé cette semaine. Tiens, Laurent Marty, président du club depuis 2007, a dit ce matin dans chez nos confrères de l'équipe, l'UBB n'est pas encore un grand club. C'est pour ça qu'on va se poser la question, les amis.
C'est difficile de le contredire.
Est-ce que l'UBB est déjà un grand club avant d'aller essayer d'aller chercher cette deuxième victoire? Tiens, rapidement, oui ou non, Mario Bartoli?
Non.
Alizé Cornet?
Oui.
Jérôme Pinault?
Un acteur majeur, oui, un grand club, non.
Simon Dutin?
Pas encore un grand club, non.
Supporter de l'UBB, on vous attend au 32-16 sur WhatsApp au 06-12-424. À Bilbao, on rejoint Nico Paolorsi qui suit l'UBB au quotidien. Salut Nico.
Salut les GG, salut à tous.
C'est un match déterminant pour la construction de l'histoire bordelaise. On est surpris quand on voit d'ailleurs le président Laurent Marty dire on n'est pas encore un grand club ou pas?
Non, on n'est pas surpris parce que, à mon sens, quand t'as même pas fêté tes 20 ans d'existence, ça va être le cas dans un mois et demi. C'est quand même dur de rivaliser avec les monstres du rugby français. Là, il y a une donnée très historique et chronologique qui fait que l'UBB se construit, a réussi déjà en 19 ans à devenir un acteur majeur du rugby français, un prétendant au titre chaque saison, et c'est surtout c'est une construction dans le temps, c'est une progression linéaire, l'histoire de l'Union Bordeaux-Bègles. Ce qui est sûr en tout cas, cette équipe là avec ce manager là Yannick Bru, elle veut s'inscrire sur la durée. Yannick Bru, il utilise énormément dans les conférences de presse le terme d'étoile filante. On ne veut pas être une étoile filante, c'est vraiment ce qui ressort de ça. Ils savent aussi qu'ils ont un groupe jeune, une équipe qui a pas encore atteint la maturité, avec des cadres comme Mathieu Jalibert qui a à peine 27 ans. Donc voilà, le potentiel il est énorme. Et ils ont envie de rentrer dans l'histoire, de gagner des titres tous les ans et de s'installer parmi les clubs qui ont fait des petites dynasties. Je pense à Toulon à l'époque de Bernard Laporte, bien évidemment au Stade Toulousain. Donc voilà, ils veulent rentrer dans la case de ces clubs-là.
Mais en fait, la question qu'on peut se poser, c'est à partir de quel moment on devient un grand club,
en fait,
en général.
C'est exactement ce que j'allais dire, Georges. Déjà quand t'as été champion de France, non? Quand on a déjà au moins un bouclier de rien, c'est quand même.
Le palmarès.
Oui, mais c'est seulement le cinquième club français qui gagne la Champions Cup, c'est quand même pas rien. Il y a quatre clubs qui l'ont fait. Et là, ils ont l'occasion de faire un doublé, c'est quand même pas anodin.
On sait aussi que le top 14 est le meilleur championnat au monde, quasiment. Et que quand tu ne l'as pas gagné, tu ne peux pas être dans la cour des grands. Le Leinster, le Munster, Toulon est un grand club.
Un grand club en construction, alors.
Mais en devenir, sûrement. Aujourd'hui, le palmarès, et le président lui dit lui-même, ils sont en train de construire. C'est un jeune club issu d'une fusion. Et aujourd'hui, sur le palmarès, sur la régularité, sur le fait d'être régulièrement en finale du top 14, de temps en temps de gagner, et en plus d'accumuler quelques titres de champion d'Europe. Le Stade Rochelet, par exemple, était champion d'Europe.
C'est un très bon exemple, parce que justement, c'est l'exemple à ne pas
suivre.
Ils ont fait le doublé, le back-to-back en Champions Cup, qui se veut au rugby ce que la Ligue des Champions est au foot, même si ça n'a pas encore le même relief, parce que vous l'avez souligné à l'instant. Le juge de paix, c'est le top 14, c'est le bout de bois, mais même pour les joueurs.
C'est quoi, donc l'UBB peut gagner 5 Champions Cup et ne sera pas un grand club?
Oui, parce qu'il
faut gagner le championnat de France absolument pour être un grand club.
Toulouse en a gagné 24.
Non, mais bien sûr.
T'es à 24 à 0.
Mais il n'y a pas Toulouse en grand club, par exemple, dans le championnat de France.
Non, mais tu vois, j'ai cité le Stade Rochelet. Aujourd'hui, le manager général et ami Pierre Venner me dirait, on n'est pas un grand club au Stade Rochelet. Même si tu accumules, il faut vivre des finales de top 14, il faut les gagner de temps en temps et t'installer dans la durée, la régularité de la haute performance, c'est ça qui fait de toi un grand club.
Il ne faut pas oublier l'effectif non plus du club aussi, c'est quand même un jeune club mais qui a des grands joueurs.
Mais c'est pour ça.
Avec Jalibert, avec quand même Biel Barré.
Non mais t'as l'impression que la moitié des internationaux français sont dans cette équipe.
C'est une grande équipe.
Mais pas un grand club.
Côté Damien Penaud, côté Louis Biel Barré, côté Mathieu Jalibert, côté un effectif qui soit construit pour être éventuellement vainqueur du top 14 et aller gagner la
Champions.
Oui, bien évidemment. Mais encore une fois, pour moi, la légende d'un club se construit par son palmarès. C'est-à-dire, le Real Madrid en foot est un immense club par son palmarès. Tu enlèves toutes ces Ligues des Champions, tu peux me dire, ouais, mais regarde, ils ont Mbappé sur le terrain cette année. Et ce n'est pas que les joueurs à un moment.
Est-ce que tu changes d'avis si ils font le doublé, Marion? Parce que même le Stade Toulousain n'a jamais fait le doublé.
Non, mais c'est pas. pour l'instant. Non, oui, non mais tu ça, peux pas, tu peux pas être un grand club et être invité dans la cour des grands. Tu peux pas être un grand club et être invité dans la cour des grands sans avoir gagné le top 14. Leur propre président de leur club le dit, je veux dire.
Ouais, bah, ça peut être de la com aussi.
Non, mais que ça soit un club qui va construire sa légende, ça j'en suis persuadée. Et qu'effectivement, ce club de l'UBB ne soit pas une étoile filante et que ça va devenir un poids lourd du rugby français, j'en suis totalement persuadée.
C'est comme le PSG est devenu un grand club en gagnant la Ligue des Champions, pas avant.
Il y a le PSG avant l'ère qatari, il y a le PSG après l'ère qatari. C'est une évidence. C'est une évidence. Mais parce qu'ils ont eu les moyens, et tant mieux pour eux.
Mais même dans cette période-là, il y a un PSG version qatari
qui ne gagne pas, et il y a le PSG qui a eu des champions.
Et depuis leur titre, ils écrasent la Ligue 1. La Ligue 1 n'est pas le top 14.
Bien
le
sûr.
Top 14, non, mais c'est le meilleur championnat de rugby au monde. Mmh. C'est ça la différence. Et donc, pour devenir un grand club, il faut gagner cela. Et puis, alors après, moi, je suis toujours réservé sur grand club et grande équipe. On l'a dit tout de suite. Parce qu'un club, c'est pas que l'équipe première. C'est ce qui se passe derrière.
C'est l'institution.
On a vu hier l'image du Paris Saint-Germain hier, qui a son équipe qui gagne la finale de la Coupe Gambardella. On est en train de devenir à tous les niveaux un grand club.
Bien sûr.
Et ça aussi, ça fait partie de l'univers d'un grand club, d'avoir des équipes de jeunes.
T'as raison,
qui performent.
Jérôme.
Nico.
Et t'as raison, et l'UBB est vraiment en train de se structurer là-dessus. Ils ont été champions de France, espoir l'an dernier. Ils sont en demi-finale cette année du championnat de France. Ils sont très actifs sur le marché des jeunes joueurs aussi.
Mais c'est une nouvelle puissance moderne, ça, c'est de manière certaine. Totalement. Et moi, je suis persuadée qu'ils vont arriver à construire leur légende, mais c'est un très jeune club, comme tu l'as rappelé.
Alizé, t'en parlais quand même, les très grands clubs, le Stade Toulousain. En effet, ils ont pas fait le doublé. Je pense que tu parlais de conserver
sa
grande Par contre, le Stade Toulousain en 2024, ils prennent le top 14 et la Champions Cup. Même saison, tu vois. Et ça, quand tu connais la dureté du championnat et la difficulté d'enchaîner les phases finales, l'UBB là, depuis qu'ils ont
démarré
les huitièmes de finale de Champions Cup, si tu vas en finale de top 14, t'enchaînes 15 matchs consécutifs chaque semaine. Aux intensités du rugby moderne, c'est inhumain. Franchement, je vous dis, c'est inhumain.
Donc, et de toute façon, encore une fois, Toulouse avec 24 bouquets de Brennus et 6 Coupes d'Europe, ça veut dire que c'est dans une autre dimension.
Catégorie, je pense que tu es d'accord. Mais l'UBB, 3 participations en demi-finale en 2021-2022-2023 en top 14, 2 finales lors des dernières éditions. Ils sont dans le dernier carré depuis
2021.
Mais il y a un faisceau d'indices qui tendent à faire croire que c'est le futur grand club du rugby français.
Toulouse, est-ce que s'ils perdent aujourd'hui, ils perdent en crédibilité?
C'est une question pour vous. Alors, je n'en suis pas certain.
Non, mais Yannick Bru. Vas-y. Yannick Bru, pardon, a répondu à cette question en conférence de presse mardi. Il a dit clairement, si jamais on perd demain, on aura beau avoir fait le plus beau parcours du monde, je resterai le manager à avoir perdu 3 finales avec l'Union Bordeaux-Bègles, alors que j'ai gagné le premier titre de l'histoire du club la saison dernière.
Il y aura aussi un déclassement.
L'UBB a quand même perdu des grands matchs.
Donc c'est fragile, en fait. Nico,
tout dépendra aussi de ce qui va se passer après dans le top 14.
Oui, alors,
ils sont 5e actuellement.
Oui, mais ils souffrent un petit peu plus.
Parce que l'enchaînement est très compliqué.
Mais une fois que tu es libéré
de toute façon, dans la perception que le grand public, même les observateurs, ont un grand club ou pas, il y a une question de temporalité. Et Nico l'a souligné au début de son papier. C'est un jeune club, moins de 20 ans d'existence, qui s'est construit par paliers. Il y a d'abord eu l'accession en top 14, il y a eu la solidification de ses bases. Il fallait rester en top 14. On regarde les difficultés qu'ont tous les promus. Il y a eu plusieurs paliers avec Urios d'abord, Yannick Bru maintenant. Mais si tu demandes aux acteurs, et Laurent Marty, qui a été joueur lui-même, ils en sont les premiers conscients. Tous les grands empires dont tu regardes l'histoire du monde, si tu veux créer un empire, tu dois d'abord imposer ta loi à la maison, sur ton sol, avant de t'étendre et de dominer ailleurs. Et l'UBB, ils doivent gagner le top 14 s'ils veulent vraiment changer de dimension et épaissir un petit peu l'écusson qu'il y a sur ce beau maillot.
Totalement d'accord avec Simon, et je rajouterai très brièvement que pour moi, l'UBB est déjà très grand par son niveau, son public et son poids économique, mais qui construit encore sa légende.
Waouh. Eh ben dis donc.
C'est
magnifique. Si tu y arrives, tu auras une belle ligne dans le narratif, parce que
elle vient de prendre son micro, elle l'a jeté par terre et elle est sortie du studio. Mais elle est immense quand même.
Karen Thomas.
Ouais, pour le narratif. Mais donnez-lui une émission. Je sais pas, on a parlé de Saint Martin Time, par exemple. Merci Nico Paul Orsi. On se retrouve évidemment tout à l'heure 15h45 sur RMC UBB Leinster en finale de la Champions Cup. Allez, dans un instant, j'y crois pas. On va parler de Roland Garros et de la Coupe du Monde de foot. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Dans un instant, le vestiaire des GG, on va recevoir Manon Apiti, championne olympique d'escrime à Paris 2024. Elle publie aux éditions Robert Laffont, L'Or de la vie, dépasser mes peurs et mes limites. Avec elle et tous ensemble, on va parler de comment on construit un mental dans le sport de haut niveau. Est-ce que ça se construit d'ailleurs, ou est-ce que c'est un truc inné, par exemple? On va en parler tous ensemble. Non, par exemple, Christophe Cessieux, pas de mental. Tu vois,
il peut travailler, c'est ça, il arrivera pas. Laisse Christophe tranquille. Non, mais c'est une question intéressante, parce que je pense qu'il y a des gens qui naissent avec des capacités supérieures que d'autres dans le domaine.
Effectivement, et je pense particulièrement à moi, c'est ce que tu allais dire.
Non. Non, mais par exemple, Nadal, on prenait l'exemple de Nadal ou de Djokovic, je pense que, voilà, Bécard ou Serena, ils ont des capacités supérieures, dont Sharapova aussi.
On va en parler tout à l'heure.
Aussi. Moi aussi.
Quand je te vois, j'ai encore plus envie de te piquer, Maria. C'est terrible.
T'inquiète pas, si tu réponds.
Je sais, c'est ça qui est terrible. C'est le moment de vous inscrire à notre jeu pour tenter de remporter 10 000 euros, le pack Coupe du Monde, vidéoprojecteur, maillot des Bleus, ballon officiel, boîte de Lego du trophée. Vous venez sélectionner un joueur dans la liste des 26 qui est derrière moi là, et vous repartirez forcément avec un super cadeau. Vous envoyez dès maintenant liste, L-I-S-T-E, au 732-16. Liste au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Allez, tout de suite, le J'y crois, j'y crois pas.
RMC, les grandes gueules du sport. J'y crois, j'y crois pas.
J'y crois, j'y crois pas, Roland Garros. Loïs Boisson peut refaire un coup. Alizé Cornet.
J'espère.
Mario Bartoli. J'adore vous mettre dans des positions délicates.
J'hésite. J'espère de tout cœur aussi, mais ouais. Au vu des résultats actuels, ça serait un réel exploit. Là,
Simon, j'y crois. Jérôme?
Je crois pas du tout.
J'y crois si elle, surtout si elle passe le premier tour.
Oui, effectivement, si elle passe pas le premier tour.
J'y crois si elle gagne la finale.
J'y crois si elle va en deuxième semaine.
Je veux dire que si elle passe le premier tour, évidemment, si elle passe pas le premier tour, c'est terminé. Je suis pas non plus une ravie de la crèche.
On y a cru.
Contrairement à ce que Christophe te dit. Non, mais en tout cas, si elle se lance dans ce tournoi, il y a vraiment. En fait, si elle passe juste. Même seulement le premier tour, il peut se passer un déclic.
Une euphorie.
Pour qu'elle retrouve un peu les sensations de l'année dernière. Aussi. Aujourd'hui. Parce que franchement, contre Anna Kalinskaya, c'est pas une adversaire facile.
Et vu, si c'est plutôt une chose de dure. La difficulté de sa reprise.
Elle a gagné qu'un match, mais elle a quand même réussi à débloquer le compteur la semaine dernière à Strasbourg, et ça, c'est une bonne chose. Parce qu'arriver à Roland-Garros sans aucune victoire, là, ça aurait été une autre limonade.
D'autant qu'elle le dit elle-même, elle peut sortir au premier tour comme aller très loin. Non
On va l'écouter, tiens, sur sa forme du moment.
Physiquement, ça va bien. Depuis peu, je suis enfin à 100%. Donc déjà hyper contente de ça, d'arriver ici dans ces conditions. Et le match, ouais, contre Mboko, enfin même mes deux matchs à Strasbourg m'ont permis tout simplement de juste refaire un peu plus de matchs, de retrouver un peu plus le rythme sur le court. Juste contente d'avoir pu faire ces matchs pour engranger un peu de la confiance dans mon jeu, dans le rythme, dans ma façon de jouer. Que en match que ça peut se faire, donc contente de les avoir joués, ouais.
Marion, sur Loïs Boisson, t'as envie d'y croire ?
Mais bien sûr, j'ai envie d'y croire. Mais effectivement, comme l'a évoqué Élisée, elle a un premier tour qui est difficile. Kalinskaya, c'est une très bonne joueuse qui prend la balle tôt, qui joue à plat, qui joue vite, qui joue en cadence. Si les conditions de jeu sont rapides parce qu'il fait extrêmement chaud sur les premiers jours.
Là, il va faire plus de 30 degrés.
Voilà, et c'est pas un tour facile du tout, puisque Loïs n'est pas tête de série, donc elle affronte une tête de série. Elle joue pas une qualifiée, une wildcard, une fille qui est moins bien classée qu'elle, où elle peut se lancer en son tournoi. Donc faut
c'est vrai que si tu le fais, tu te dis.
Il faut tout de suite qu'elle soit au taquet en termes de niveau de jeu. Alors, ce qui est rassurant, et là vraiment, moi je suis heureuse de l'entendre, c'est qu'elle est à 100% physiquement, parce que ça, c'était quand même une grande inquiétude. On voyait à Madrid et à Rome, elle avait encore mal au bras. Donc, c'est quand même difficile d'aborder la terre battue quand t'as mal au bras et que tu mets beaucoup de livres dans tes balles. Donc, déjà, au moins qu'elle soit à 100%, c'est bien. Elle a repris son ancien entraîneur qui était avec elle l'année dernière à Roland-Garros. Après, il y a une évidence, et ça, c'est indéniable, et je pense que même elle n'est pas en capacité de le nier, c'est que. Elle a eu 8 mois d'absence et qu'elle arrive avec une victoire à Roland-Garros. Et ça, c'est factuel. Personne ne peut l'enlever.
Il ne faut pas vendre. Ça va être une année.
L'année dernière, mine de rien, elle était arrivée avec beaucoup de victoires.
Exactement. Et c'est ça la grande différence. Elle n'était pas connue du grand public, mais elle avait accumulé beaucoup de confiance et beaucoup de victoires.
Allez, j'y crois pas, les amis. Ce sera un drame quotidien pour le Brasil avec Neymar à la Coupe du Monde. J'y crois pas.
Moi, je continue. Je crois que ça va être un drame. Je me suis fait allumer cette semaine, toute la semaine, où je continue.
J'y crois pas.
Non, ça sera pas un drame. Elle est née.
Allez, Neymar.
Ah ouais, j'y crois.
Jérôme, donc sur Neymar.
Non, mais j'ai pas saisi le sens.
On rappelle, il est blessé au mollet droit actuellement.
Je rebondis sur. C'est la même approche que Loïs Boisson, c'est-à-dire que Neymar joue dans un championnat où il est le meilleur joueur de son équipe, mais ça joue pas très très vite. Et en plus, là, on est dans une préparation pour se dire bon, j'y vais. Du coup, faut que je sois à peu près bien préparé. Et dès qu'il augmente un peu l'intensité, il se blesse. Et ça m'inquiète.
Non, mais rentre 3 sur 15 minutes et sur 20 minutes. Et tu sais
quoi,
Neymar,
sur
une jambe, il est déjà bien meilleur que beaucoup de joueurs sur cette planète.
Tu sais très bien la place.
Mais c'est une évidence.
Mais pour une Coupe du Monde dans une équipe nationale du Brésil qui a quand même de grosses ambitions, j'y crois pas. Et aujourd'hui,
j'ai des difficultés
aussi, le Brésil.
Non, mais
c'est un vrai influenceur football. Maintenant, est-ce que c'est un joueur de football capable de tenir son rang et d'amener une équipe vers un titre? Non, c'est non. Et par contre, il va avoir toutes les caméras vers lui.
Non, mais c'est un rôle de sortie de banc.
Il va avoir toutes les caméras vers lui. Il va avoir toute sa com vers lui. D'ailleurs, Ancelotti, l'une des grandes conditions, c'est attention à ta communication pendant la Coupe du Monde. On veut avoir un joueur de foot et pas un acteur principal sur Instagram.
Mais c'est ça.
Il va avoir du mal à mettre les choses en place. Et aujourd'hui, dès qu'il va se blesser, Marion.
Et c'est bien, c'est que nous,
ça va. On va parler que de ça. Mais non, mais
nous à l'extérieur, on prend les pop-corn.
Non, mais Neymar. Faut quand même rappeler quelques faits. Neymar est de manière factuelle le meilleur buteur et le meilleur passeur de l'histoire d'AC Sao.
Déjà pas de pour problème, commencer, oui.
Vinicius
on a qu'à faire jouer Michel Platini aussi.
Vinicius en équipe du Brésil a toujours été sous-performant.
Ouais, c'est vrai,
factuel.
C'est vrai.
Maintenant, on va pas lui demander d'être le leader de l'équipe comme en 2014, en 2018, mais en sortie de banc aujourd'hui sur 10-15 minutes. Tu sais, c'est un petit peu le même cas que Karim Benzema. Tu sais quoi? C'est pareil pour l'équipe de France. Quand Karim Benzema est pris à la dernière Coupe du Monde,
le rôle de Karim
Benzema.
Il jouait au Real Madrid, il jouait pas dans.
Non mais pourquoi éventuellement on s'était dit que Karim pouvait être dans cette équipe de France là. Je te parle pas de la dernière Coupe du Monde là, de 2026. Hey. C'était éventuellement s'il était en sortie de banc sur les 10-15 minutes.
Mais parce que Neymar, il peut pas.
Parce que ce
ça.
Sont des joueurs qui sont exceptionnels. Neymar aujourd'hui sur une jambe, il est bien meilleur que énormément de joueurs qui vont participer à cette Coupe du Monde.
Il est déjà blessé dès qu'il augmente l'intensité. Il va falloir qu'il fasse.
Il est blessé qu'il augmente l'intensité ou pas. En tout cas, c'est une immense figure du Brésil. Il est respecté par tout le vestiaire et de toute façon, il comptera dans cette équipe.
Ça, je suis pas sûr. Surtout qu'il va voyager dans la soute de l'avion. C'est quand même plus le prime Neymar, qui est le phare brésilien sur lequel on compte. Il n'est pas interdit de penser qu'il ne démarrera pas les matchs, qu'on l'emmène pour ce qu'il est capable d'apporter, sa créativité.
En revanche, la ferveur au
pays. Et Lukaku a été repris avec la Belgique, il a joué 60 minutes en un an.
Sur Neymar, on compte pour aider la Coupe du Monde, mais tu l'emmènes parce que tu ne peux pas te priver d'un talent pareil.
Exactement.
S'il est assez fit pour performer dans le championnat brésilien, peut rendre des services quand même à une sélection brésilienne qui manque un peu de créativité.
Je pense qu'il sera quand même en première classe dans l'avion, Simon.
Ah oui,
Mais non,
Neymar, évidemment, on va en parler tous les jours. Bah nous, on est ravis.
Je pense que si, pour moi, si le Brésil a besoin de Neymar pour apporter un plus, ça veut dire que le niveau de cette équipe n'est
quand même pas. Tu sais quoi, Georges, tu serais allé l'interviewer avec moi en Arabie Saoudite, t'aurais changé d'avis.
Non, c'est incroyable.
Ah, si.
J'allais dire, c'est incroyable.
Si,
Mario a parlé de Neymar sans dire, il est passé dans
le temps. Je suis obligé de le dire.
Mais elle a quand même appelé Ney, parce qu'elle le connaît personnellement. Le Ney. Allez, à tout de suite dans le vestiaire. On va accueillir Manon Appiti, championne olympique des skis. On va parler de la construction d'un mental de sportif. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.